Camarade gamer, c'est Creepers.
Oh oh.
Camarade mélomane, c'est Rhône.
Et bienvenue dans la Beatsbox.
Il y a un petit moment, nous avions fait une émission spéciale jeux de plateforme que vous pouvez d'ailleurs écouter sur PodCloud, et étrangement, il n'y avait pas de jeux rares. Même si nous avons déjà diffusé des morceaux venant de leur jeu, on s'est dit que ce développeur méritait bien un numéro spécial, tant son univers est riche, varié et en même temps avec des caractéristiques qu'on retrouve régulièrement. Bref, il y a tous les ingrédients pour une bonne émission et j'espère que c'est ce qu'on va vous proposer avec ce numéro spécial rare.
Mais attention, ici il n'est pas question d'une énorme rétrospective, mais d'un pur hommage à ce développeur de légende qui est toujours en activité. Allez, c'est parti! Alors on commence avec Monster Max, sorti en 1995. Alors on était en train de se dire justement avec Ron, à mon avis, c'est le premier jeu Game Boy qu'on diffuse dans la Beatsbox.
Ouais, je crois bien, ouais.
Donc c'est un petit événement en soi.
Bah oui, allez, champagne.
Voilà, la Game Boy, c'est quand même resté pendant très très longtemps la console le plus vendue dans le monde. Alors, rappelez-vous, Tetris, tout ça, c'était quand même assez cool pour jouer aux toilettes. Alors je meuble un petit peu parce que Monster Max, j'ai pas énormément de choses à dire dessus puisque j'ai découvert ce jeu justement en préparant cette émission. Et on s'était dit que c'était quand même plutôt sympa de diffuser ça parce que il faut se rappeler quand même que Rare, c'était pas uniquement sur les consoles de salon de Nintendo, il y avait aussi énormément sur les consoles portables. Donc c'est un jeu d'aventure en 3D isométrique qui était édité par Titus, parce que la particularité des jeux Rare sur console portable, c'est que ce n'était pas édité par Nintendo, mais généralement par Titus, ou vous avez encore d'autres éditeurs comme Acclaim par exemple. Et c'était un jeu qui avait été plutôt bien accueilli lors de sa sortie. Et pour la musique que nous venons d'écouter, eh bien il s'agit d'une musique qui a été composée, attention surprise, par David Wise. Alors attention, David Wise, Rhône, on va l'entendre, je pense,
ouais,
quelques fois.
Une paire de fois, ouais.
Voilà, une paire de fois dans cette émission. Donc c'est un compositeur anglais de grand talent et donc qui est largement associé à Rare parce qu'il va composer énormément de musique, de jeux pour notre développeur chouchou d'aujourd'hui. Et vous allez donc le revoir d'ici pas longtemps. Allez, attention, grosse surprise encore une fois, car Rare n'a pas fait que GoldenEye en adaptation de film. Thank you.
Et oui, on vient d'entendre un morceau issu du jeu A Nightmare on Elm Street. Alors, pour ceux qui ne parlent pas anglais, hein, il s'agit de Freddy, les griffes de la nuit. Alors, ça peut paraître un petit peu surprenant, mais oui, ça a été adapté sur NES. Donc, j'ai essayé le jeu hein, pour voir ce que c'était, parce que moi, j'aime bien quand même notre ami Freddy. Bon, c'est nul, hein, ne perdez pas de temps. Ça n'a aucun intérêt, ça ne fonctionne pas très bien. Donc, en termes de jeu, c'est vraiment pas formidable. Par contre, la musique, elle, moi, je la trouve vraiment très chouette. Et elle a été composée par, devinez qui ?
Bah ouais. David Waze.
Hein, en même temps, il faut quand même savoir que jusqu'en 1994, hein, le monsieur était le seul musicien de Rare. Donc, c'est lui qui a fait toutes les musiques des jeux Rare jusqu'en 1994. Donc, forcément, il a fortement participé à la construction de l'image du développeur. Et ce qu'on retrouve dans sa musique, c'est quand même un sacré talent, parce que on rappelle qu'on est sur NES en 1990, juste avant on a entendu de la Game Boy, et pourtant il arrive à sortir de ses bécanes des musiques qui retrouvent l'ambiance de ce qu'il veut montrer. Là, dans le cas présent, ouais, on retrouve hein, vraiment l'ambiance d'un film d'horreur hollywoodien. Ça fleure bon la New Line, c'est vraiment très très bien réussi. Ce gars-là, rien que pour lui, ça valait le coup de mettre la cartouche dans la console. Et c'est un morceau que j'avais écarté de justesse sur le podcast spécial Musique qui font peur hein, qu'on a fait. J'avais déjà eu un petit peu envie de le mettre. Bon, j'ai eu quelques regrets. On peut pas non plus faire des émissions de 2 heures. Donc là, l'occasion était trop belle. On revient sur un spécial Rare. Je pouvais la remettre. C'était donc Freddy, A Nightmare on Elm Street, sorti en 90 sur NES avec Monsieur David Wise derrière les claviers. On va rester sur NES pour encore un morceau, et sachant qu'il est sorti en 1990, si vous avez bien suivi, un morceau de
David Waze. Aujourd'hui, c'est la Saint-David. On ne fait que du David Wise pour débuter cette émission, mais en même temps, bah voilà, faut dire le mec non seulement a du talent, mais tu l'as déjà dit, c'était le seul qui faisait des musiques pour Rare, et donc Solar Jetman voilà, n'échappe pas à la règle. Donc, composition totale de David Wise pour ce jeu sorti sur Nintendo et sur plein d'autres supports, puisque en fait, Solar Jetman, c'est le 3e jeu d'une série qui a été commencée sur, de mémoire, ZX Spectrum.
Wow.
Donc voilà, la saga des Jetman, donc l'histoire d'un petit astronaute qui essaie de récupérer des morceaux de vaisseau pour essayer de s'échapper de différentes planètes. Donc c'est un mélange, on va dire, de shoot'em up et d'exploration, puisque donc au départ, donc les versions ZX c'était assez limité, on passait un petit peu d'écran en écran pour récupérer des morceaux pour faire décoller la fusée. Là sur la version NES, alors qui était assez sympa à l'époque, puisque visuellement c'était plutôt chouette, et il faut dire qu'avec la Nintendo, bah c'est pas forcément évident de faire des jeux super jolis, mais il y a pas mal de couleurs, pas mal de détails sympas qui arrivaient à l'écran, et c'était assez jouable en plus, parce qu'on dirigeait donc son espèce de petit astronaute de gauche à droite avec forcément la petite croix directionnelle, et c'était ma foi plutôt plaisant de déambuler comme ça dans les niveaux avec la musique de ce bon David dans les oreilles. Donc il y a pas énormément de choses à dire sur Solar Jetman, c'est un jeu qui a quand même marqué un petit peu les gens qui ont joué. Moi j'ai un pote qui est ultra fan de Solar Jetman, je sais pas pourquoi il voulait toujours me le refourguer. Alors soit c'est parce qu'il l'aimait pas du tout justement parce qu'il savait pas quoi faire avec, mais à chaque fois il me parlait de Solar Jetman, et j'ai enfin pu y jouer grâce à la compilation Rare, parce qu'à l'époque moi j'avais pas mis les mains dessus, mais je trouve que c'est relativement agréable encore à prendre en main, donc n'hésitez pas à tester la chose. Allez, encore une fois, on reste avec une musique de ce bon David, mais on change complètement d'ambiance et de plateforme.
Alors j'ai découvert la série Battletoads dans sa version Super NES à l'époque. Hein, rappelez-vous, on avait diffusé d'ailleurs une musique dans une précédente émission. Donc c'était Battletoads in Battle Maniacs hein, sur SNES. Alors moi j'avais beaucoup apprécié. Hein, rappelez-vous, ce jeu il était cool, ça avait un petit peu forgé ma jeunesse de gamer et malgré la difficulté. Hein, donc voilà. Alors avec la compile Rare, j'ai découvert que en plus de la version NES, donc qui était sortie il y a fort longtemps, et du crossover avec Double Dragon, qui était pas génial. Ronan est en train d'en parler.
C'est pas si bien que ça.
Voilà. J'ai vite balayé ce choix de musique, parce que même la musique était assez moyenne sur Battletoads versus Double Dragon. Et ben j'ai découvert qu'il y avait une version arcade. Voilà, une version arcade de Battletoads avec une aventure complètement différente et qui était vraiment chouette. Et donc avec une musique de ce bon David Wise. Alors j'adore cette musique qui est tirée du stage numéro 4 de ce jeu. Alors c'est une musique qui est assez sympa parce qu'en fait elle est assez sombre, assez oppressante. Et je trouve qu'elle correspond parfaitement au niveau, en fait, qui est un niveau horizontal. Donc tu descends, en fait, ces fameux niveaux en ascenseur où c'est super dur, il y a plein de trucs qui arrivent dans tous les sens. Car je trouve que cette musique un petit peu oppressante, lancinante, comme ça, elle colle bien à cette descente un peu aux enfers, comme ça, que trouve le personnage pour descendre complètement en affrontant des strums bien belliqueux. Donc c'est un niveau qui est compliqué, et cette excellente musique est là en plus pour nous foutre la pression.
Figure-toi que moi j'y ai joué en arcade à ce jeu-là, c'était dans une salle d'arcade où j'allais, et si je me trompe pas, on pouvait jouer à 4.
À 3
C'était 3,
ouais, ah,
j'arrivais pas à me souvenir, mais moi c'est un jeu auquel j'ai joué, mais pas très longtemps, parce que j'ai le souvenir qu'il était difficile, et donc quand on réussit à avoir une pièce de 5 balles à mettre dans un jeu, on essaye comme ça une fois ou deux, mais si c'est trop dur, on préfère tourner quand même sur les jeux où on joue un peu plus longtemps. Quoi.
Ouais, c'est un peu la particularité des jeux Battletoads, c'est que même la version NES était ultra dure, bon, la version Super NES j'en ai déjà parlé, mais même celui-ci, heureusement que sur la compilaire, parce qu'il y est donc sur la compilaire, je l'ai déjà dit, donc jouez-y parce qu'il est cool, il est quand même très très dur, mais sauf que là on peut rajouter des crédits et recommencer à l'infini, donc forcément ça aide un petit peu, mais j'ai énormément adoré parcourir ce Battletoads, et je pense même que je pourrais peut-être le mettre au-dessus de Battletoads in Battle Maniacs, mais j'ai quand même beaucoup plus d'affect, donc je vais tricher et dire que c'est quand même celui-là qui est le meilleur. Attention, on arrive sur un classique de Rare, ultra connu sur Super NES. Et c'est très poilu.
Cette fois-ci, on a fait un petit saut en 1995, donc David Wise n'est plus le seul compositeur de Rare, mais ce morceau est bel et bien un morceau de David Wise, encore lui. Vous avez peut-être reconnu un morceau qui vient de Donkey Kong Country 2. Alors, à cette époque, moi, c'était une Mega Drive que j'avais, et je dois dire que j'étais pas jaloux de grand-chose sur la Super Nintendo, mais il y a bien un truc quand même qui me faisait beaucoup envie, c'était les Donkey Kong Country. Et dès que j'avais l'occasion, j'y jouais. J'ai toujours adoré l'ambiance qu'il y avait, les animations. Je trouve que c'est des jeux qui sont vraiment très très chouettes.
et une partie de l'intérêt, de toute façon c'est une constante chez Rare, d'où cet épisode, hein, c'est des musiques qui assurent, quoi. Dans celle que j'ai sélectionnée aujourd'hui, c'est plus une musique qui mise sur l'ambiance que j'ai voulu mettre en avant. En même temps, heureusement, j'ai dit quelques minutes avant qu'il était fort pour mettre des ambiances, donc j'illustre, hein. Vous voyez, c'est un boulot quand même. Et là, sur ce morceau, donc c'est une ambiance qui est un peu planante, un petit peu calme, et si on ferme bien les yeux, elle fait penser à des grandes surfaces enneigées, comme quoi la vie est bien faite, vu que ce morceau s'appelle In a Snowbound Land.
Oh, le talent!
Il est fort, ce David Wise, c'est pas croyable, quoi. Bon, et si on écoutait autre chose qu'un morceau de David Wise pour changer ? Alors si vous vous demandez de quel jeu vient cette musique, c'est que vous nous écoutez depuis trop peu de temps. Il faut rattraper votre retard, car maintenant, à chaque épisode, nous vous proposons une musique de film que l'on glisse comme ça, discrètement, parmi les autres. Alors vous allez me dire que les musiques de films Rare, ben, ça n'existe pas, il n'y en a pas. Donc on a un petit peu feinté, et ce que vous venez d'entendre, c'est le thème principal composé par Max Steiner du film King Kong, qui date de 1933. Et oui, il y avait juste Donkey Kong juste avant, il y a du Diddy Kong, King Kong, ça le fait, hein, ça le fait, non ?
Il y a des poils, on valide.
Allez, on valide. Et puis je dois dire, c'est une petite excuse aussi pour parler comme ça discrètement de ce très très vieux film, 1933, c'est pas évident. Alors attention, hein, c'est pas en couleur, il n'y a pas d'image de synthèse, il n'y a même pas de super-héros, et pourtant, on a un film qui reste magique aujourd'hui, notamment grâce aux magnifiques effets spéciaux en image par image. Avec la bataille de King Kong en haut de l'Empire State Building qui est totalement mythique. Enfin, c'est un film qu'il faut avoir vu si on veut avoir une culture ciné, et c'est même pas une par obligation, mais parce que c'est vraiment sympa à regarder.
Ah, c'est un charme fou en plus, hein. Enfin, c'est à regarder, effectivement, comme tu le dis, je trouve que les effets spéciaux, alors, vieillissent bien. Ça peut paraître paradoxal, mais je trouve vraiment que ces effets spéciaux par image gardent vraiment, donnent un cachet au film qui lui permet vraiment de traverser le temps et de rester assez classe à regarder.
Ouais, c'est exactement, c'est peut-être même un bon moyen de s'intéresser à l'animation image par image, parce qu'il y en a une paire de films, hein, qui bénéficient de ce petit cachet si particulier, que personnellement j'adore. Donc déjà, regardez le film, ça vaut le coup. Et en termes de musique, alors Max Steiner, c'est un compositeur qui donc est mort. Hein, et ben oui, le film date de 1933. Il est mort en 71, mais si vous êtes curieux et que vous voulez aller voir sa discographie, vous allez juste halluciner. Ce gars, il écrivait la musique de facile 5 films par an, enfin, une machine à produire. Je pense que tout n'était pas extraordinaire, parce qu'il faut bien reconnaître que la musique qui accompagnait les films à cette époque, elle était vraiment envahissante, beaucoup ouais. d'instruments. C'est pas forcément ma cam, mais dans King Kong, je trouve qu'il s'en sort vraiment bien. Qu'on a un thème qui est quand même suffisamment pur pour pas qu'il nous gâche finalement l'image, et surtout avec une structure qui ressemble beaucoup à ce qu'on retrouve aujourd'hui chez des compositeurs contemporains, hein, chez des John Williams et consorts, avec à la fois un thème dur et des petits passages plus calmes qui vont ressouligner le redémarrage du thème. Enfin, c'est pas une nouveauté ce que font les compositeurs aujourd'hui, ça existait déjà en 1933 avec King Kong. Voilà, on referme la page ciné et surtout on referme la page culture pour aller vers quelque chose de beaucoup plus brutal, la destruction totale. Go for it!
Mais dis donc, vous gênez pas mon bon monsieur, comment ça c'est pas de la culture ce que je vous propose maintenant? Il y a des gros camions, il y a de la démolition, okay. Et forcément bah, c'est ma culture à moi, hein. Quand il faut tout péter, ça c'est mon plaisir à moi. Alors le but du jeu de ce Blast Corp est d'accompagner un convoi qui transporte une ogive nucléaire un tout petit peu sensible, et donc forcément le but c'est de le faire traverser sans qu'il le touche quoi que ce soit, sinon ça fait ça fait boum.
Ah, c'est le salaire de la peur en fait.
C'est un peu ça. Effectivement, belle référence monsieur, on sent que vous aimez le cinéma vous. Alors ce jeu c'est un peu encore une preuve que Rare aime la variété. Alors rien à voir avec la musique, hein. la variété dans le concept.
Ouf, là, je suis presque prêt à me mettre à chanter du Claude François.
Ah non mais voilà, restons simples, Rhône, ne faisons pas fuir les auditeurs. Alors c'est un pur jeu d'arcade qui mélange destruction massive, et donc ça c'est cool, et la course au score. Puisque Blast Corp nous permet de prendre plein de véhicules différents, donc on a des hélicoptères, des robots, des bulldozers, et du coup de tout péter. Voilà, donc on pète tout, et plus on pète tout de manière efficace, plus on remplit la barre de score, et justement donc on a ce camion qui avance tout droit, et il y en a rien à secouer, le mec, il est au volant d'un truc avec une ogive, et il s'en fout, il fonce tout droit, et donc on pète tout. Il y a quand même de temps en temps des moments où il faut mettre aussi une petite, il faut remplir une piste pour qu'il puisse continuer à avancer, parce que si tu pètes vraiment tout, des fois il y a des trous qui commencent à se faire par terre, donc c'est assez chouette. Et donc c'est la particularité aussi de ce jeu, c'est que c'était assez ouvert. Alors où maintenant on parle beaucoup de monde ouvert un petit peu, bah là sur la Nintendo 64, ce que je ne vous l'avais pas dit, c'est sur Nintendo 64 et c'est sorti en 1997, et ben on avait un univers, alors bien sûr flou, hein, parce que c'est sur Nintendo 64, mais un univers assez grand, et ça poussait un petit peu à l'exploration. Et je trouve que cette musique qui cette fois n'est pas de David Wise mais de Graham Norgate, je la trouve plutôt adaptée à des phases d'exploration. Je trouve qu'il y a un côté atmosphérique comme aiment bien justement la plupart des compositeurs de chez Rare, Donc on a ici une composition assez variée, puisque on a aussi des passages un petit peu rock, redneck, qui rajoutent tout ça, parce que forcément, quand on a des engins de destruction, bah c'est un petit peu redneck.
Ouais, c'est hein.
Forcément, ça colle bien un petit peu au paysage musical du titre. Et donc voilà, c'est un jeu qui, je trouve, est encore assez agréable à jouer. T'étais en train justement de me dire que tu avais parcouru un petit peu ça dans la compile rare et que ça passait plutôt bien.
Absolument, on s'est plutôt bien amusé avec mon gamin sur ce jeu. De toute façon, tout détruire, ça marche toujours très bien.
Je suis 100% d'accord avec cette analyse, et donc juste pour donner un nom à la musique qu'on vient d'écouter, il s'agit de la partie Havoc District. Allez, encore une fois, Rhône retourne dans les poils, et ça c'est chouette.
Le morceau que vous venez d'entendre vient de Banjo-Kazooie, si ça c'est pas du classique, sorti en 1998 sur Nintendo 64, et c'est une musique de Grant Kirkhope. Je sais pas si ça se dit vraiment comme ça, Kirkhope. Alors forcément, un gars qui est britannique, hein, comme tous les gens chez Rare, je pense, et qui a pas mal bossé sur Nintendo 64. Pour la petite histoire d'ailleurs, c'est lui qui faisait la voix de Donkey Kong dans Donkey Kong 64.
Ah ouais, une belle voix.
Voilà, une jolie voix, hein, c'est devenu maintenant un... Non, mais ce qui est assez anecdotique comme ça, mais c'est du coup ce qu'il disait est repris en sample maintenant dans des jeux Nintendo plus récents.
Ah bon?
Donc il continue de vivre à travers le temps. Alors il me semble que c'est dans Smash Bros. Qu'on a encore sa voix qui apparaît. Et c'est la voix originale de la version Nintendo 64.
Quoi. Génial.
Alors bon, en passant, hein, la Nintendo 64, moi je vais l'avouer, c'est une machine qui m'a pas vraiment fait grand chose. Hein, en fait, sauf sur une chose, les jeux rares, et en particulier celui-là, moi j'adore Banjo.
Et moi aussi.
Je trouve que c'est un jeu qui est dynamique, qui file la patate, il y a des couleurs. Moi je le préférais à Mario 64, hein, je vous le dis franchement.
En fait, tu vois, un peu comme toi, bizarrement, moi j'ai pas forcément un gros affect sur la Nintendo 64, mais en fait, bizarrement, j'avais un ami à moi qui l'avait cette console, et justement, il y a que quelques gros jeux que j'ai parcourus, comme justement GoldenEye, Banjo, sauf que bah, ces jeux-là, je les ai torchés, quoi. On les a torchés à plusieurs, on jouait vraiment un peu à tour de rôle sur Banjo, à récupérer toutes les pièces, etc. Enfin, c'est un jeu qui était extrêmement bien fait, qui avait réussi quand même à l'exploit d'aller à part égale, moi je dirais, avec Mario 64, qui était quand même le jeu que tout le monde mettait au sommet de la N64. Et c'est un sacré jeu, quoi. Avec une durée de vie de malade, avec un univers de dingue.
C'est clair.
Très chouette.
Moi, si je le mets au-dessus de Mario 64, c'est bon déjà parce que Mario m'énerve, mais aussi parce que c'est l'ambiance de Banjo que je trouve c'est super festif. trouve ça vraiment agréable. Moi, je l'ai retrouvé avec un énorme plaisir à nouveau sur la compile Rare. Hein. Les banjos, ça prend pas une ride, ça marche vraiment super bien. Et du côté musique, la musique, elle est géniale.
Elle est géniale.
Dans Banjo. Ouais. Il y a tout ce qu'on retrouve chez Rare dans une certaine partie de leur jeu, avec un côté très cirque, c'est la fanfare, c'est très péchu, tout en revisitant différents styles. Alors là, c'est exprès que j'ai sélectionné un morceau du coup qui fait plus penser à une musique d'horreur à la base, hein. On est dans la maison de la sorcière, si je me trompe pas, ça doit être ce passage-là. Et malgré tout, voilà, c'est une musique d'horreur, mais c'est du cartoon en même temps. On est vraiment là pour s'amuser, on est vraiment là pour le fun, il n'y a aucun doute sur la question. Et il y a une autre caractéristique qui est très marquée dans beaucoup de musiques rares, et là, celle-ci, je trouve que c'en est un très bon exemple, c'est que ça reste dans la tête. Quand on y joue et qu'on éteint la console, on continue d'avoir les musiques qui restent, mais c'est pas agressif, c'est pas comme la petite chanson à la con qu'on déteste mais qu'on chantonne quand même. Ça revient avec plaisir à nos oreilles, et il suffit de 2-3 notes et hop, c'est reparti, ça revient et ça remet la patate.
Et là, puis je trouve que ça colle même bien au personnage, il y a le côté un peu pato.
Oui.
Tout à fait. Beaucoup des trucs comme ça où il y a le côté enjoué du personnage qui est super guiré, aussi de l'oiseau qui est un peu fou, et je trouve que la musique colle vraiment à la démarche du perso, donc ça apporte vraiment même dans le rythme du jeu, et c'est vrai que ça te reste dans la tête, mais tout ce qui est même l'enveloppe sonore du jeu est parfaite, ça colle vraiment vraiment tous les petits sons, tous les petits bruitages, la façon qu'ont les animaux de communiquer entre eux, enfin c'est assez génial.
Bon, vous avez compris, hein, on est des gros fans de Banjo. Voilà, donc on partage ça. Et là, on va passer maintenant à un nouveau jeu, un autre jeu dont je suis également très, très, très fan.
Parce qu'il y a du caca.
Voilà un autre jeu légendaire de chez Rare, puisque c'est Conker's Bad Fur Day. Alors là, c'est la version Reloaded, la version Xbox. C'est celle-ci que j'ai sélectionnée parce que c'est là où j'ai découvert Conker's. Je n'y avais pas joué sur Nintendo 64. Et quand j'y ai joué sur Xbox, j'ai trouvé ça absolument génial. Donc déjà, la version Xbox est superbe. Si on a le choix, c'est à celle-ci qu'il faut jouer. Et avant tout, ce que j'aime dans le jeu, c'est que c'est un super jeu. Un petit peu comme pour Banjo, qu'on en parlait tout à l'heure, le jeu est extrêmement bien conçu, le level design, est très très bien fait, c'est étudié pour qu'on y passe du temps, c'est étudié comme les meilleurs jeux de plateforme peuvent l'être, il y a beaucoup de choses à faire dedans, on y revient toujours avec plaisir, c'est joli. Il y a de la couleur, il y a de la bonne humeur, il y a d'excellentes musiques. Celle que vous venez d'entendre est une musique finalement relativement classique, un petit peu angoissante, c'est une musique de baston, on pourrait dire, hein. Il faut affronter les ennemis. On est dans quelque chose d'assez classique, c'est Robin Binland qui a fait cette musique. Et je voulais absolument la mettre pour rappeler que Conkers, c'est avant tout un excellent jeu, pas juste un écureuil qui dégueule quand il boit trop, même si ça fait aussi beaucoup partie du charme du jeu. Et d'ailleurs, on va peut-être rester un petit peu avec lui pour parler de l'autre facette de Conkers.
Great mighty Pooh, and I'm going to throw my shit at you. A huge supply of tish comes from my chocolate starfish. How about some scat, you little twat?
Have some more caviar.
Tickly shitty little tag nut. When I've knocked you out with all my bab, I'm going to take your head and ram it up my butt.
Your butt.
My butt.
Your butt.
That's right, my butt.
Ugh.
My butt.
Ugh.
My butt.
Alors attention, cette musique, je l'ai juste mis pour toi, Aaron. Pourquoi? Parce que pour ceux qui ont joué au jeu, vous le savez déjà, c'est un passage où vous avez un gros caca qui chante.
Et voilà, c'est ça, un gros caca qui chante.
Un gros caca qui chante de l'opéra, donc ça s'appelle Slowprano, et donc forcément c'est aussi composé par Robin Binland, puisqu'on reste dans Conker's Bad Fur Day, donc cette fois dans la version Nintendo 64, et ça nous permet deux choses. Déjà d'une, parce que ça nous permet de reparler du côté irrévérencieux du jeu, et ça c'est clair que à l'époque de la Nintendo 64, voir une scène d'ouverture où on a un petit écureuil tout mignon qui commence à dégueuler et avoir la gueule de bois, bon, on s'est dit waouh, vous avez le studio Rare qui se permet de faire ça, d'avoir un côté un peu hardcore de Mario, c'est quand même ultra culotté et personne n'y croyait quand on a commencé à voir des images du jeu, surtout qu'à la base le jeu devait être pas du tout comme ça, hein. Ça devait être un jeu assez mignon, etc. Et maman, ils ont dû se dire
c'est bon,
on en aura le cul du mignon, voilà, on a assez donné dans l'animal sympa et super fun, donc du coup bah ils ont balancé la sauce et ils ont balancé quoi, donc aussi les voilà, les gros caca, le vomi, les vans cato, etc., même un petit peu de sexe, hein, dans ce Conkers. Donc, est-ce que tu veux rajouter des petites choses justement par rapport à ce passage qui t'a un petit peu marqué quand même?
Ouais, non, mais ce passage, il est juste complètement fou. Alors, on a déjà un petit peu avancé dans le jeu, donc on a compris qu'on était dans un jeu qui ressemble à rien qui peut exister, où on a une représentation qui reste classique, qui est complètement cartoon. Si on fait pas trop gaffe et qu'on regarde juste les screens, ben on est dans un joli jeu rare. Ça pourrait être un banjo. Il y a aussi des couleurs, il y a aussi un petit animal. Tout ça a l'air très sympathique, mais bon, très vite, oui, il y a des gros sous-entendus très cul. On a quand même un écureuil qui picole. Enfin, c'est absolument invraisemblable. Et quand on arrive dans cette scène, c'est le boss le plus improbable qu'on ait jamais vu. C'est quand même un tas de merde. Et non seulement c'est un tas de merde, ce qui est déjà fou, ce qui fait quand même un petit peu un choc hein, quand t'arrives dans la salle, et quand la musique démarre, là on se dit mais en fait non, j'ai bu, c'est moi qui ai bu, c'est pas possible ce que je suis en train de voir. On a un gros caca qui chante de l'opéra en affirmant qu'il est un gros caca. Qui t'explique, les paroles sont savoureuses, hein. On a laissé le morceau pendant longtemps, réécoutez-le, les paroles sont savoureuses. Le qui s'échauffe la voix sur un air d'opéra, enfin c'est un surréalisme absolument total. Je veux dire, même David Lynch, il oserait jamais faire un truc pareil. C'est complètement improbable, mais c'est aussi ça Conkers. Et c'est ce qu'en fait un jeu qui, autant d'années après, reste complètement unique. On peut y rejouer sans problème. Alors comme je disais, tant qu'à faire sur la version Xbox, mais si c'est sur la version N64 et c'est elle qui est dans la compilation Rare Replay, il faut le faire quand même parce que c'est juste c'est fou quoi. C'est fou, c'est des trucs qu'on voit plus et ça fait du bien de voir quelque chose d'aussi barré, d'aussi mal poli, d'aussi taré quoi.
Bah, comme dirait Ian Malcolm dans Jurassic Park, c'est vraiment un gros tas de merde. Alors, je parlais aussi d'un autre point qui a quand même son importance, puisque tu as diffusé juste avant donc une musique tirée de la version Xbox de Conker's Bad Fur Day. Alors, c'est important parce que, justement, c'est l'époque où Rare a été racheté par Microsoft. Et alors, oui. Ça a été un choc. Hein. Ça a été un choc parce que la plupart des fans ont crié au scandale, donc avaient peur que le studio soit un petit peu dénaturé, etc., etc. Ce qui est pas totalement faux. On va peut-être y revenir un petit peu plus tard. Mais en tout cas,
On en reparlera peut-être au gré des musiques qu'on va entendre. Mais pour faire le lien avec Conkers, on peut dire que Rare s'est fait chier dessus.
Exactement.
Avec ça, et c'est bien de laisser le temps au temps à un moment donné et de se repencher sur les jeux qu'ils ont produits ensuite. On va probablement en reparler parce qu'il y a peut-être eu des réactions que je qualifierais de légèrement démesurées.
Ouais, un peu injuste. Surtout même directement avec Grape by the Ghoulies, on avait déjà diffusé des musiques du jeu donc on n'en a pas remis là. Mais c'est vrai que Grape by the Ghoulies qui est arrivé un petit peu plus tard après le rachat, moi j'ai trouvé que c'était carrément chouette. Et il est aussi dans la compil Rare, hyper bien refait en plus, et le jeu Absolument. A vraiment très très bien vieilli. Donc le jeu s'était fait un petit peu démolir de manière assez injuste. Et donc Grape by the Ghoulies, allez-y, vous pouvez jouer. Donc il y a eu la version de Conkers, et donc on reparlera de certains jeux après qui sont sortis sur Xbox 360. Mais avant ça, on va faire un petit saut dans l'espace pour mon choix de film.
Thank you.
Alors, dans la dernière émission, j'ai réussi à passer du Mad Max. Là, je dois dire que je suis pas peu fier, puisque grâce à la thématique rare avec ces animaux qui parlent un petit peu chelou et surtout avec Conker's Bad Fur Day, je peux vous parler d'Howard le canard.
Wow.
Howard le canard, une autre espèce de héros, une autre race de héros, pardon. Donc sorti en 1986. Alors là, on a écouté une musique assez assez calme, assez triste même, donc qui est composée par John Barry. Alors John Barry, vous le connaissez sûrement parce que c'est quand même juste le mec qui a fait le générique de James Bond, hein, excusez du peu, un tout petit monsieur, donc qui a fait énormément de musique de films et dont celle d'Howard le canard. Alors qu'est-ce que c'est Howard le canard? C'est ni plus ni moins, parce que là vous êtes tous en train de fantasmer devant plein de productions Marvel super ouf avec des effets spéciaux de dingue, mais Howard le canard, il était là avant Captain America,
ouais,
les gars. Il était là avant Doctor Strange, il était là avant comment il s'appelle déjà, les Gardiens de la Galaxie, où Howard apparaît de manière vachement moins cool, hein, faut quand même se l'avouer. Donc Howard le canard, c'est un personnage Marvel. On est dans les années 80, et c'est produit en plus par George Lucas.
Carrément.
Un mec qui a tellement de pognon qu'il fait n'importe quoi avec. Et donc, du coup, vous avez un vrai costume de canard avec des vraies plumes de canard qui coûtaient $1 million, je crois. Hein, que le costume coûtait $1 million, j'en ai fait plusieurs. Et donc, ça raconte forcément l'histoire d'Howard le canard qui a été embarqué sur Terre par un rayon tracteur alors qu'il était en train de lire son journal sur son fauteuil. Donc, il débarque sur Terre tranquillou. Alors, dans une zone assez pérave, hein, ça qui était assez dingue parce que il y a un côté un peu film familial. Enfin, moi, je croyais que c'était un film familial. Mais en le revoyant plus vieux, parce que mes parents étaient un peu fous. Mes parents m'ont loué ça quand j'étais tout petit. C'est, je pense, la VHS qui m'ont le plus loué parce que j'étais complètement fou d'Howard le canard. Alors, vous voyez, ça laisse un petit peu de traces, hein, forcément.
Ouais, je crois, ouais.
Et donc, Howard le canard débarque. Alors, je sais plus c'est dans quelle ville, mais c'est hyper poisseux. Il y a des mecs qui se tapent dessus, qui essaient de choper des gonzesses un petit peu à gauche, à droite. Donc, c'est un canard obsédé sexuel qui pratique le kwakfu. Vous savez, le kwakfu, donc cet art martial incroyable sur la planète d'Howard. Et donc, malheureusement, en même temps qu'Howard, débarque aussi un gros monstre complètement belliqueux sur Terre. Et il va falloir lui botter les fesses. Et pour ça, il va faire équipe avec Léa Thompson et Tim Robbins. Donc, vous voyez, le casting est quand même pas dégueulasse.
N'importe quoi. Hein.
Et il y avait aussi Geoffrey Jones, l'excellent Geoffrey Jones. Hein, ceux qui ont déjà vu la formidable journée de Ferris Bueller, eh ben, vous savez de qui je parle. Et donc Geoffrey Jones, à un moment, est possédé par cet extraterrestre un petit peu chelou et qui va à un moment reprendre de l'énergie en mettant sa langue dans un allume-cigare.
Voilà. Ça, voilà. Normal.
Je vous laisse imaginer la scène. Il y a les effets spéciaux un petit peu foufou tout le long du film. Et je ne vous cache pas, ça fait un bide et je ne sais pas pourquoi.
Ah, on se demande.
Comment tu veux vendre un truc pareil?
Mais déjà la BD était quand même très confidentielle. Moi, je connaissais la BD un petit peu avant. Et c'était quand même une BD, c'était le genre des mini-BD de 4 pages que t'avais pour compléter le comics, quoi. Mais il y avait le vrai comics Howard, mais je crois que c'était pas aussi hardcore que le film, en fait.
Mais le film est vraiment bizarre parce que, donc, quand je parle de vraiment d'alien belliqueux, il est crado, quoi. L'alien à la fin il se transforme, c'est un espèce de gros monstre comme ça fait. Alors c'est même plutôt bien fait, je trouve, parce qu'il y avait du budget quand même à l'époque. Et il y a un espèce de gros monstre, mais vraiment crade, vraiment super crade et hyper effrayant. Donc il y avait vraiment donc Geoffrey Jones qui est possédé, qui a une tronche mais qui commence à s'arracher, enfin à décomposer au fur et à mesure du film. Et il y a des scènes cheloues où il y a des éclairs qui lui sortent des yeux puis il grille les gens. Et donc t'as Howard, il y a quand même, alors je vais le dire, allez, il faut le dire, Ron, il y a une scène de zoophilie quand même. Howard, je veux dire, Howard, il est tellement sexy et tellement, il a du sex appeal à revendre, tu vois. Et donc, Léa Thompson, alors pour ceux qui connaissent pas Léa Thompson, c'est la maman de Marty McFly dans Retour vers le futur. Et elle tombe amoureuse, hein, de Howard le canard. On voit à un moment une scène en ombre chinoise comme ça de loin où on les voit clairement s'embrasser alors qu'elle est en nuisette. Voilà, donc c'est un petit peu tendancieux. Elle trouve des préservatifs dans son portefeuille. Bon, voilà, c'est un petit peu glauque, hein, comme. comme approche du super-héros, mais mine de rien, ça reste un film de super-héros, oui et non, mais ça reste un film quand même assez à part. Il y en a beaucoup qui n'aiment pas Howard le Canard. Moi, je l'ai deux fois en Blu-ray, je l'avais aussi en DVD. Donc, comme je dis, ça laisse des séquelles. Alors, ça fait au moins 10 minutes qu'on parle de Howard le Canard, c'est super long, mais ce film est génial, regardez-le. Allez, on quitte les canards et place à la fête!
Retour aux jeux vidéo et on est sur Xbox 360, ça y est, on y arrive, hein, on se rapproche un petit peu plus de notre époque contemporaine. C'est en 2006 que ça se passe quand Rare sort Viva Piñata. Alors Viva Piñata, il y a un truc qu'on pourra jamais enlever à Rare, c'est qu'au moins ils essayent des trucs. Il y a toujours des tentatives pour faire des choses originales. Alors Viva Piñata, on est en plein dedans. Ce sont donc, c'est un jeu de gestion de, je sais pas, de jardin, de vie.
Ouais, il y a un côté un peu. Donc les piñatas, pour ceux qui savent pas, c'est des trucs où on tape dessus, vous savez, où il y a des bonbons. Généralement, on les défonce pour récupérer des bonbons. Et donc on a une gestion d'un cadre de vie comme ça, de petites bestioles. Donc tu mets des jardins en place, tu mets des fleurs, c'est et tu gères tout ça. Enfin c'est. Et même moi j'ai aimé. Enfin, je déteste
alors
ce genre
de jeu. Et donc, le but c'est d'attirer des petites bestioles, les piñatas justement, ouais. Pour que les faire se reproduire, qu'il y ait des œufs, des nouvelles variétés, etc. Alors il y a pas vraiment de but quoi. Le but du jeu c'est d'avoir le plus joli jardin. Il y a les saisons qui passent. Pour tout vous dire, c'est un des jeux préférés de Tom Choucrou, hein, le rédac chef d'Xboxygène, qui adore Viva Piñata. Mais je dois dire que, en ce qui me concerne, pour moi, c'est surtout un des jeux les plus beaux, esthétiquement parlant, que j'ai jamais vu. C'est absolument magnifique. Toutes les bestioles, le rendu est génial. L'idée, elle est géniale au départ. Ce qui fait que tout est joli dans ce jeu. Et quand on y joue, il y a un côté un petit peu apaisant. C'est tranquille, c'est joli, c'est vraiment
ouais,
le bon
bien.
Terme.
Tu sais que t'es bien, tu risques rien en fait. T'es à l'aise, t'es entouré de couleurs et de petites bestioles toutes mignonnes, enfin voilà, t'es bien.
Alors la musique que j'ai sélectionnée, hein, je l'ai prise parce qu'elle fait très Disney d'une certaine façon, mais il faut savoir que toute l'OST de Viva Piñata est vraiment très bonne. Alors pas très bonne hein, pour conduire en bagnole en bougeant la tête, non, ça reste des musiques très calme, avec des reprises des thèmes qu'on vient d'entendre suivant les saisons, suivant ce qui se passait à l'écran.
mais c'est des musiques très bien écrites hein, par Grant Kirkhope. On peut mettre le CD, s'installer dans son canapé et on est bien, on va bouquiner tranquille. T'as l'impression qu'il n'y a rien qui peut t'arriver, c'est juste agréable. Voilà, on est dans un jeu qui envoie un sentiment plus qu'un objectif, et le sentiment c'est que on est bien.
Puis t'as envie de manger des bons becs.
Et t'as un peu envie de manger des bons becs, c'est vrai aussi quand même. Donc voilà, en tout cas, c'est encore une preuve que finalement Rare a continué de faire des choses bien. Hein. Pour moi, Viva Pignata, c'est un jeu qui mérite qu'on s'y arrête. Et si vous y avez jamais joué, ben je vous conseille de mettre le doigt dedans. C'est un fonctionnement qui fait penser à ce qu'on trouve beaucoup maintenant sur les tablettes et les mobiles, mais ça se passait bien avant finalement ce truc-là. Donc si vous aimez ce genre de jeu, il faut juste construire et faire vivre un endroit. Ben là, on a un environnement qui est à la fois riche, agréable, original. Enfin bon, que demande le peuple, quoi.
Mais ils avaient fait un dessin animé, non, aussi. Ils avaient lancé une série animée, je crois, alors qui a pas super bien marché, mais ça se prêtait plutôt bien avec les personnages, je crois.
Ouais, ça aurait pu. Je sais pas. J'ai pas suivi ça, allez, j'avoue.
Allez, je l'ai piégé, maintenant on se casse.
Voilà, on est foutu. Bon, puisque c'est ça, je suis piégé, je suis vexé, ben je m'en fous, je passe au prochain jeu qui, à nouveau, est sur Xbox 360. Et voilà le retour de Banjo. Alors c'est en 2008 sur Xbox 360, c'est Banjo-Kazooie Nuts and Bolts. Et alors c'est un jeu qui a été un petit peu controversé à sa sortie. Là on est en plein dans le phénomène Rare qui n'est plus chez Nintendo et que c'est un scandale, il y avait un petit peu de ça quand même. Banjo, on l'a déjà dit tout à l'heure, c'était un jeu mythique qui revenait, ça a généré une certaine attente. Et comme Rare a pour habitude de ne pas aller là où on les attend forcément... Eh bien, il y a eu des déçus. Je crois que c'est un petit peu ton cas, Creepers, d'ailleurs, sur ce jeu.
Ouais, alors moi, c'est plus dans la direction que le jeu a pris, parce que toute la direction artistique, l'univers, l'ambiance, les personnages, je suis fan, toujours très très fan. Par contre, en fait, le défaut vient plus de moi, c'est-à-dire que j'ai pas la patience de construire des trucs. Et encore tout ce qui sort maintenant, il y a même beaucoup de jeux qui nous permettent de crafter des machins, et c'est que j'ai pas la patience de m'amuser à faire un bolide et tout. Par contre, je dois admettre que déjà c'était culotté de partir vers autre chose, parce que tout le monde s'attendait à un Banjo très très classique, Mais toute la construction de véhicules, même si quand je vois des gens faire des trucs formidables, je suis toujours bluffé. Mais moi, du coup, je me suis un peu perdu et j'ai assez vite lâché l'affaire.
Oui, bah, je comprends. C'est un peu un sentiment que j'ai eu au début quand j'ai commencé à y jouer. Et en y revenant un petit peu plus tard, bah, finalement, j'ai accroché. Alors, qu'est-ce qui fait la différence avec ce Banjo par rapport à un jeu de plateforme assez classique? Alors, cette partie classique, elle existe toujours. La partie qu'on a décrite tout à l'heure, le plaisir de creuser dans les niveaux pour aller chercher toutes les pièces, aller dans tous les endroits, elle y est toujours. La petite dimension supplémentaire, c'est qu'effectivement, il va falloir fabriquer des véhicules pour passer d'une zone à une autre, et sans ça, en fait, on n'avance pas. Hein. On est bloqué, donc c'est un passage obligé. Alors, on accroche ou on n'accroche pas à cet aspect, c'est vrai que c'est juste très inhabituel dans un jeu a priori plateforme, et surtout très inhabituel quand c'est une suite de Banjo qui a tant marqué en étant sur un créneau précis.
Mais après, tu vois qu'ils ont eu raison, parce qu'il y a beaucoup de jeux qui ont repris ces systèmes-là quand même. Hein.
Oui.
C'est la création de véhicules, le fait de s'approprier les niveaux et ce qui nous entoure, c'est quand même assez en avance hein, par rapport à ce qu'on voit maintenant.
Alors bon, en tout cas, moi, quand je m'y suis remis, du coup, au deuxième essai, bah, j'ai adoré. Et j'ai retrouvé, alors peut-être pas autant de plaisir que le premier Banjo, qui est quand même très très haut, mais beaucoup de plaisir quand même. On retrouve beaucoup de caractéristiques communes, et parmi elles, puisque c'est quand même le principe de notre émission, la musique, bon sang de bonsoir. Ils sont restés dans des tonalités qui sont finalement celles qu'on connaissait déjà, mais en version 360, les machines sont plus puissantes, etc. Donc on peut faire plus de choses, et ils y vont à fond dans l'aspect cartoon, l'aspect festif, et on retrouve à nouveau donc une OST qui fout la banane, qui met de bonne humeur, elle est excellente. Ils ont fait un travail absolument remarquable. Franchement, ça donne juste envie de faire la fête, quoi. Ça fait un peu du bien de revenir aussi, de reparler de jeux qui donnent ce sentiment de fête, de joie. Alors Clippers me faisait remarquer que pour cette émission, j'avais pas pris de morceaux de jeux sombres ou tristes. Et effectivement, parce que Rare, moi, ça me fait penser à la fête, ça me fait penser à ça. Et quand j'entends des morceaux comme ça, bah, je me dis que c'est devenu finalement original de faire ça rétrospectivement, puisque tout est devenu un peu trop sérieux, peut-être.
Ouais, je suis d'accord.
Et voilà, donc ça fait du bien, c'est de mettre ça. J'espère que ça vous fait du bien aussi, en tout cas. Et ça, on le doit quand même fortement à Rare, qui n'hésite jamais à aller bah, là où on les attend pas. Et d'ailleurs, dans ce qui arrive là maintenant, alors moi, c'était un petit jeu que je ne connaissais pas. Je dois dire que j'étais très surpris dans le genre. Ben, je m'y attendais, mais vraiment pas. Quoi.
All together now. Dum dee dum dee dee. Dum dee dum do. Dum do dum dum dee dee da. Da 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 dee dum dum dee do do. Dee 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 do do dee do. Dum dee dum dee dee. Dum dee dum do. Dum do dum dum dee dee da. Da 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 dee dum dum dee do do. Dee 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 do do dee do.
It's Mr. Pants.
Super!
Allez, place à la drogue. Découverte totale, encore une fois, justement, dans tout ce qui va être Game Boy, puisque c'est un jeu Game Boy dont il s'agit, eh ben, je ne connaissais pas, un peu comme notre premier jeu Monster Max. Donc là, c'était deux musiques collées ensemble de It's Mr. Pence. Donc un jeu de casse-tête, donc comme je l'ai dit, sorti en 2005 sur Game Boy Advance, composé par Robin Binland, qui ne devait pas être tout seul ce jour-là, pour composer ce thème-là. Alors ce qui est marrant, c'est que du coup, comme j'ai complètement découvert le jeu, je me suis amusé à regarder un making-of pour voir un petit peu comment ils en étaient arrivés là. Donc au départ, ça devait être un jeu Donkey Kong, un casse-tête Donkey Kong, et autant dire qu'ils sont partis complètement
un petit peu ailleurs,
vers autre chose, puisque le personnage principal n'est ni plus ni moins qu'un monsieur, un petit monsieur bedonnant moustachu avec un slip. Voilà, donc tranquille quoi. Donc alors dessiné vraiment de manière très simple, mais en même temps il y a une vraie patte artistique. Il y a vraiment une vraie identité dans ce jeu-là, ce qui fait qu'il a, entre la musique et le visuel, on est obligé d'accrocher ou pas du tout. Parce que, alors déjà, il faut aimer les slips, parce qu'il y a énormément de slips dans ce jeu.
C'est important.
On voit des animaux avec des slips, dans le décor, vous avez des slips qui recouvrent entièrement, donc des slips de différentes couleurs qui recouvrent complètement l'écran. Et donc le but, c'est un peu un Tetris-like où on doit refaire des rectangles pour faire disparaître des pièces au fur et à mesure du jeu. Donc voilà, c'est somme toute assez classique. Mais comme d'habitude avec Rare, on est sur quelque chose de complètement original, un petit peu décalé. Ce qui fait que le jeu sort complètement de tout ce qu'on voit habituellement dans ces jeux de ce genre-là. Et j'ai complètement accroché à la musique. Et donc j'ai même réussi à contaminer Ron parce qu'il avait musique dans la tête toute la journée quand il a cliqué sur ce petit lien. Et c'est vrai que la musique, donc la toute première version, elle va dire chantée, oui et non, hein, mais c'est All Together Now, donc qui est chantonné par le personnage principal. Et justement, c'était un des compositeurs du jeu, ou un des développeurs, je ne sais plus, je suis un petit peu perdu, mais qui prête la voix à ce personnage en slip. Et voilà, c'est une anecdote plutôt mignonne. Alors maintenant que je vous ai mis cette musique dans la tête pendant un bon moment, on va retourner sur Xbox 360 avec un de mes jeux Day One. We'll be right back. Et oui, c'était donc Day One avec ma Xbox 360 accompagné de deux jeux. Alors surtout un jeu qui n'a rien à voir en termes d'ambiance, c'est Condemned et Perfect Dark Zero, que j'aime un petit peu moins. Donc c'était une musique de Cameo Elements of Power. C'était
une sacrée musique
de Steve Burke. Et oui, une sacrée musique ultra épique. Franchement, ultra épique. Alors Cameo, après je laisserai Ron parce qu'il a un gros coup de gueule à vous faire. Cameo, donc l'univers était vraiment très chouette. C'est très coloré encore une fois avec Rare et il y a un gameplay qui était hyper intéressant parce que c'était basé sur des transformations avec des, donc comme le dit le titre, les éléments du pouvoir. Donc il y avait le côté rocher, feu, nature, etc. Et donc c'était des transformations hyper mignonnes. Il y avait une espèce de gros bonhomme en rocher, il y avait une plante carnivore, et ça permettait d'avancer, justement, il y avait des petits casse-têtes qui étaient basés là-dessus, donc c'était un jeu de plateforme aventure entièrement en 3D, et pour un jeu Day One, franchement, ça envoyait le pâté. Je vois pas trop ce qu'il y avait à reprocher à ce jeu-là, en tout cas à l'époque, il y avait parfois des petits couacs au niveau de la mise en scène, mais plus au niveau du gameplay de temps en temps, parce que je parle de mise en scène, mais non, parce que finalement elle était très très bien la mise en scène, il y avait une ouverture épique avec un château qui se faisait attaquer par des dragons et tout, enfin, c'était ultra chouette, et malheureusement, eh ben voilà, il s'est fait un petit peu démonter. Voilà, l'accueil était assez tiède, et c'est là que Ron intervient.
Ouais, il s'est fait bâcher n'importe comment. Alors tout à l'heure, on a dit qu'il y avait eu une réaction épidermique quand Rare a quitté Nintendo et surtout s'est fait racheter par Microsoft. D'un seul coup, tout ce que faisait Rare, c'était pas bien. Et là, parfois, les joueurs ont des réactions qui frôlent l'absurdité. Quand Cameo a été montré la première fois, alors c'est bien simple, on n'avait jamais vu ça sur un écran.
Ouais.
On avait des effets de particules, il y avait je sais pas combien de bestioles à l'écran. Ouais. C'était complètement fou. Les graphismes étaient exceptionnels, la mise en scène était remarquable, accompagnée par une musique de fou. Le tout en réussissant par-dessus le marché à être original, à pas être juste un beat'em all. La réaction logique face à un jeu comme ça, ça aurait été de dire « Mais ça pue le chef-d'œuvre !» On aurait dû jeter dessus, mais non, c'était Rare, c'était chez Microsoft, et ça nous a donné une réaction complètement débile là-dessus. Donc un accueil du coup, pour le coup, assez tiède, comme le disait Creepers, mais complètement incompréhensible. Alors là, il s'est passé quelques années. Parmi nos auditeurs, il y a sans doute des gens qui ont dit « Oui, Rare est mort, c'est pas bien, etc. » Bah écoutez, mettez le jeu, et il faut y jouer, et vous allez voir que peut-être que vous y êtes allé un peu fort, et surtout un peu vite, parce qu'on redécouvre un jeu qui finalement se joue toujours aussi bien aujourd'hui, qui a toujours toutes ses qualités, qui a toujours toutes ses originalités. Pour moi, Cameo, c'est juste un superbe jeu.
Donc on vient de le souligner, le jeu a été accueilli de manière assez tiède. Par contre, son OST a fait l'unanimité puisqu'elle a remporté de nombreux prix un petit peu partout dans le monde. Et donc Steve Burke, pourtant, c'était sa première véritable composition personnelle puisqu'il avait un petit peu travaillé sur quelques jeux Rare, notamment sur Star Fox Adventure, mais il avait fait que quelques compositions. Là, il s'occupait vraiment de la BO du début à la fin, et c'était le premier enregistrement symphonique du studio, puisqu'ils ont enregistré ça avec l'orchestre philharmonique de Prague. Franchement, wow. C'est un petit peu la classe. Et cette musique, elle est ultra épique. Et ça pourrait même, je pense, aller dans n'importe quel film d'animation super classe, c'est un clair. Petit peu à la Dragon, tu sais, le film Dragon que j'aime beaucoup. Je pense que ça pourrait carrément coller là-dessus. Donc un vrai talent, ce Steve Burke. Et malheureusement pour lui, alors même s'il a fait quelques compositions après, j'ai vu dans sa fiche Wikipédia, puisque moi je suis un véritable journaliste, hein, je fais des recherches approfondies, il a fait des bruitages pour les avatars. Voilà, désolé mec, voilà, c'est comme ça. Mais je crois qu'il est reparti avec les anciens de Rare pour travailler justement sur Yooka-Laylee, puisqu'ils sont en train de travailler sur un jeu qui sortira l'année prochaine. Donc j'ai foi en toi Steve, tu peux faire un comeback magnifique. Bon, on avait dit que Ron n'avait mis que des musiques ultra joyeuses, mais attention, place à la baston.
Oui, oui, je sais. Si vous êtes un fidèle de la Beastbox, vous savez que j'ai déjà passé des morceaux qui viennent de ce jeu, puisque c'est Killer Instinct sur Xbox One. Et vous connaissez mon amour pour l'OST de ce jeu qui a été fait par Mike Gordon. Eh ben oui, j'adore ce que fait ce gars-là. Et
mais
en
oui
particulier, en particulier sur ce jeu, je vous invite très fortement à vous procurer cette OST. Ça sent bon la violence, ça sent bon les pains dans la gueule, ça tombe bien, c'est un jeu de baston. Et dans ce morceau, alors c'est un morceau qui m'étonne toujours un petit peu, parce que alors là vous en avez eu à peu près un peu plus de 2 minutes, mais c'est un morceau qui doit faire 7 minutes et finalement qui tient avec 3 notes hein, sur son thème. C'est quand même pas grand chose, il y a que 3 notes, il y a que des percussions, et pourtant, rien qu'avec ça, on arrive avec un titre qui est blindé d'action. Donc c'est le morceau qui s'intitule Sandstorm, et rien qu'avec ça il y a des petites variations qui vont venir. Ça va être de la guitare, ça va être d'un seul coup des instruments plus orientaux, on va changer un petit peu le rythme, l'intensité, on va en rajouter, ça se ralentit, enfin le rythme ne ralentit pas, mais la partition se charge un petit peu moins, puis d'un seul coup repart à fond de balle, ça pue l'énergie. C'est vraiment une illustration de ce qu'il y a dans cette OST. Et j'avais mis que des morceaux, c'est vrai, un petit peu gentillet, mais je voulais aussi souligner la variété de ce que peut faire Rare. Rare, c'est aussi la série Killer Instinct, qui a toujours été un peu leur série, la série violence, quoi. C'est l'exact opposé du fameux banjo dont on a parlé tout à l'heure. D'un côté, il y a le mignon, il y a les cartoons. De l'autre côté, il y a un équilibre à rétablir. Il nous fallait bien du Killer Instinct et des pains dans la gueule.
Alors attention, si vous aimez aussi le travail de Mike Gordon, je vous invite aussi à écouter l'excellente bande-son de Doom et à regarder justement la prestation en live qu'il a fait au Games Awards, qui était juste magnifique. Voilà, il fallait absolument que je souligne parce que j'adore Doom et j'adore sa musique.
Allez, on laisse les combattants de côté et on va maintenant passer à un autre très 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 grand classique de Rare présenté par Creepers. We'll be right back.
Allez, on fait un petit retour en arrière. On arrive en 2000 avec une musique de Grant Kirkhope, Graham Northgate. Donc, vous les avez déjà entendus un petit peu, je crois, pendant cette émission. Je vais commencer un petit peu à vous habituer à ces noms-là. Puisque c'était la musique de Perfect Dark dans sa version Nintendo 64. Car non, je n'aime pas Perfect Dark Zero. Je n'ai jamais aimé ce jeu. J'ai même mis plusieurs années à le terminer. Je me suis forcé à le terminer. Je déteste.
Quoi, je...
La DA est horrible.
Oui.
Mais je sais pas ce qu'ils ont fait avec la version 360. Alors pour le coup, on peut vraiment dire que Rare s'est un petit peu planté sur ce jeu-là. Mais bon, on va dire 1 sur 2. Un très bon jeu d'un côté et une grosse déception de l'autre. Alors c'est pas épouvantable non plus, mais il y avait un gameplay qui était assez rigide et une DA qui était assez affreuse. Mais bref, on le laisse de côté puisqu'on est là pour parler de la version Nintendo 64 qui faisait un petit peu suite. C'était un peu la suite spirituelle de GoldenEye dans sa façon de jouer. Je reprends un petit peu les gros codes de la grosse réussite GoldenEye à l'époque, donc le multijoueur, énormément d'armes, plein de missions secondaires, et donc là Rare enfonçait le clou avec ce FPS futuriste qui nous mettait dans la peau de l'agent Joanna Dark en 2033. Donc Rare arrive à installer un univers de science-fiction plutôt sympathique. Je trouve que le personnage est assez charismatique, ce qui va complètement être perdu donc après. Le multijoueur était en béton armé, donc on passait énormément d'heures avec les potes à jouer à 4 sur la Nintendo 64. Bon, il fallait mettre l'expansion pack, hein, parce que le jeu était assez gourmand, c'était vraiment un jeu de fin de vie. Mais en tout cas, voilà, la musique de Perfect Dark avait sa place dans notre sélection coup de cœur pour ce développeur de grand talent. Et donc, gros jeu oblige. Comme je l'ai dit, c'était vraiment le gratin des compositeurs Made in Rare qui se sont mis dessus. Il y a énormément de pistes. Il y a énormément de travail sur les ambiances. Il y a plusieurs ambiances différentes dans le même niveau, puisqu'on a des niveaux d'infiltration. D'un seul coup, le même thème va être complètement changé en version action, etc.
Donc c'est généreux.
Ouais, c'est très 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 généreux. Je trouve vraiment que le travail est fait. Et encore une fois, on arrive à voir que, comme c'est les mêmes compositeurs, ils arrivent vraiment à s'approprier des univers complètement différents, ce qui n'est pas donné à tout le monde. On va conclure tranquillement cette émission en regardant l'horizon et l'avenir de ce développeur de talent.
Cloaked in folds of midnight water, side by side, we sons and daughters, we set forth for no king's orders, but we'll sail together. Hold fast, tides are turning, flames roar.
Quand Sea of Thieves a été annoncé avec ce trailer et cette musique, je pense que j'ai dû avoir cette musique dans la tête pendant au moins 5 jours. Donc vous l'avez bien compris, là on va regarder un petit peu ce qui va se passer plus loin, ce qui va se passer l'année prochaine avec finalement le prochain jeu Rare sur Xbox One. Sea of Thieves, ce jeu finalement assez intrigant, dont on ne sait pas encore grand chose tout en sachant beaucoup, c'est assez étrange, on ne sait pas exactement ce qu'on va en faire encore. Moi, juste ce que je peux vous dire, c'est que c'est un des rares titres qui finalement m'excite vraiment pour l'année prochaine. Même si on ne sait pas trop ce qu'il faudra faire, Je retrouve des caractéristiques que j'aime chez Rare et que j'ai envie de voir. Je vois de la couleur, je vois des graphismes qui sont stylisés. C'est pas du photoréalisme. Je trouve ça juste beau. Esthétiquement beau. Alors, j'espère que le fun sera bien là. À vrai dire, on n'a aucune garantie là-dessus. Mais s'il y a une chose, en tout cas, dont je suis sûr, c'est que une nouvelle fois, Rare essaye quelque chose. On peut s'attendre à avoir quelque chose d'original, et en plus des pirates, c'est quand même cool.
Bah ouais, j'allais le dire, c'est des pirates quoi, c'est
bah
cool,
ouais,
les
c'est
pirates.
Des pirates quoi.
C'est vraiment génial, et on va pouvoir avoir notre galion, on va pouvoir jouer en multijoueur. Alors c'est moi ce qui me met le doute, je suis un peu comme toi en fait, c'est qu'on a ils ont montré à la fois beaucoup.
Ouais.
Et rien du tout en fait, c'est-à-dire qu'on sait à peu près le concept du jeu, et moi j'ai joué à l'E3, je sais plus si t'avais joué avec moi, je ne sais plus, mais j'ai joué à l'E3, j'ai rejoué un petit peu à la Gamescom, et c'est un jeu, quand tu joues comme ça, qui est ultra cool, mais qui à mon avis prend tout son sens uniquement avec des potes, parce que c'est le ça. Trailer avait été montré que des mecs hurlaient dans tous les sens, enfin genre voilà, on abuse un petit peu avec des youtubeurs, mais je pense qu'en jouant avec des potes, et si le contenu est conséquent, c'est-à-dire que vraiment le côté voyage, le côté immersion pour aller trouver des trésors, est vraiment mis en avant, et que c'est pas uniquement des petites batailles navales à gauche à droite, ben ça peut donner quelque chose d'assez excellent, avec une durée de vie énorme, et surtout avec du contenu qui pourrait se rajouter au fur et à mesure, avec des îles, je sais pas, peut-être des requins, il faut des requins quoi.
Ouais, non, il faut des requins, puisque on peut mettre on peut obliger des mecs à sauter dans l'eau, etc.
Oui.
Alors voilà, donc on sait pas trop, mais il y a une chose que je peux vous dire, c'est que quand on était à l'E3, je n'ai pas pu y jouer pour cause de queue bien trop longue. Le jeu a fait un carton auprès des gens qui étaient sur place.
À Gamescom aussi.
Tout le monde avait envie d'essayer, tout le monde avait envie de voir à quoi ça ressemblait. Et alors, y a cet aspect clairement axé sur le coop qui limite peut-être un certain public. Mais en tout cas, et c'est pour ça que je voulais qu'on termine sur ce morceau-là, moi c'est un jeu qui me fait penser que non, enfin Rare n'est pas mort, et même loin de là, on a un titre ici qui montre qu'ils essayent, qu'ils veulent encore apporter quelque chose, peut-être que ça va marcher, peut-être que ça va pas marcher, on n'en sait rien, mais en attendant, il y a une vraie volonté d'avoir une proposition. D'avoir autre chose qu'un nouveau shooter, qu'un nouveau jeu d'action narratif, le grand truc à la mode. Et voilà, c'est du nouveau, c'est un vent de fraîcheur. Et les quelques musiques qu'on a entendues, moi j'adore. On est dans Pirates des Caraïbes.
Ouais, les
voyage.
Musiques sont fabuleuses, ouais, je suis d'accord.
Ça me donne en tout cas énormément envie. Et c'est ce qui est peut-être le plus important finalement, quoi.
On est prêt à embarquer.
Et ben voilà, prêt à embarquer, prêt à se mettre un bandeau sur l'œil même quand on voit des deux yeux, et puis à dire des trucs débiles comme si on était un pirate, de boire de la bière, de monter sur un mât.
Boire de la bière.
Voilà, moi je trouve ça plutôt cool. Et comme les musiques sont vraiment excellentes, bah en tout cas c'était bien de rester là-dessus aussi. Et vous allez voir que ça va marcher sur vous, que vous allez la garder dans la tête pendant encore un bon petit moment, que ça va vous trotter dans le crâne. Et vous allez aussi avoir envie de monter dans un galion. C'est ça la vie.
Et malheureusement, Moussaillon, il est temps de rembarquer dans le galion de la solitude et de la tristesse, puisque c'était la dernière musique de la Beatsbox, vous l'avez compris. Il est temps de nous dire au revoir et de lever l'ancre et d'aller de voguer vers d'autres aventures.
Bon voilà, vous avez bien compris, c'était une sélection, alors évidemment, hein, il n'y a pas une sélection Rare totale, on pourrait faire une émission de, je sais pas, 8 heures, hein, tellement il y a des OST qui sont riches sur de très nombreux jeux. Donc on a voulu mettre des choses très connues, des classiques, des choses qu'on connaît peut-être un petit peu moins, mais l'idée c'était de vous montrer toute la diversité qu'on peut trouver chez ce développeur depuis ses débuts jusqu'à aujourd'hui, parce que finalement il est assez rare d'avoir des développeurs qui ont une image aussi marquée. Trimballe avec eux tout un imaginaire et puis surtout qui trimballe aussi ben de la joie, de la bonne humeur, et voilà, moi ça me fait plaisir, j'espère aussi que ça vous a fait plaisir de faire ce petit voyage avec nous.
De la NES à la Super NES, de la Nintendo 64 à la GameCube, en passant par la Xbox et la Xbox 360, n'hésitez pas à nous dire quelles sont les musiques que vous aimez dans le catalogue de Rare. En tout cas, n'hésitez pas non plus à partager, à nous mettre des étoiles, etc., etc. Vous connaissez un petit peu la manœuvre habituelle, mais nous, en tout cas, ça nous aide, on aime bien avoir des retours, donc n'hésitez pas à nous laisser des commentaires, on apprécie et surtout, on vous répondra à chaque fois. Il ne nous reste plus qu'à vous faire des bisous et à vous donner rendez-vous à l'année prochaine, puisque bien sûr, vous le savez, c'est la fin d'année, c'est les fêtes, donc amusez-vous bien et à bientôt.
Salut.
So you can play them all. It's a rare replay, a grand